carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?
Bonjour à tous les auditeurs de RCF, nous sommes dans Carnet de Voyage et nous sommes avec Stéphanie Besson, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons pour un trajet fabuleux, vous êtes partie de Briançon et vous avez été jusqu'en Chine, et en plus en vélo.
Voilà, exactement.
Par quel pays vous êtes passé?
Alors on est passé par l'Italie, bien sûr, on est allé jusqu'à Venise en partant de Briançon. Ensuite on a pris le bateau pour aller en Grèce et après de là on n'a plus quitté les vélos. Donc Grèce, Turquie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan et enfin la Chine.
C'est énorme, vous avez mis combien de temps pour faire ça?
Donc on a mis 9 mois pour faire entre... On était 4 et on a pris 2 parcours un petit peu différents sur la Chine. Donc il y a un groupe de 2 qui a fait 12 000 km et l'autre groupe qui a fait 16 000 km.
Et du coup ça vous a permis de rester en Chine au moins 3 mois?
Voilà, tout à fait. Quand on est arrivé à la frontière chinoise, on était super contents. On avait déjà pas mal de kilomètres dans les pattes et on se disait bon, bah ça y est, on a atteint notre objectif. Et après, on s'est aperçu que finalement, il y avait encore un tiers du voyage pratiquement rien qu'en Chine.
C'est très grand.
Voilà. Donc après un petit coup au moral quand même, parce que c'est pas évident. Après, on était heureux qu'il reste encore autant de temps parce que la Chine, c'est vraiment fantastique et encore très très différent de ce qu'on avait pu voir précédemment.
Le fait que vous arriviez en Chine en vélo, ça vous permet de rentrer subrepticement. Sans ennui, sans contrôle, sans rien.
Quand on va en Chine et on fait une demande de visa, en général, on demande un parcours, on demande les hôtels dans lesquels on va rester. Et en vélo, c'est un petit peu différent. On est beaucoup plus libre parce qu'en fait, on n'a pas de ligne de route à donner. Donc, c'est vrai que ça permet une grande liberté d'aller où on veut sans contrôle.
Alors avant de parler du voyage lui-même et puis des rencontres qu'on verra en deuxième partie, on va parler des 3 projets que vous aviez emmenés avec vous. Donc, il y en a un concernant les comptes.
Donc, on était 4 et on a décidé en fait de partir en voyage en vélo, mais aussi d'aller en quête de quelque chose d'autre. Donc on a décidé d'avoir un projet compte. Le projet compte, c'était rencontrer dans chaque pays un compteur qui nous raconte un compte typique en quelque sorte. Donc on a enregistré ce compte et ensuite on l'a retranscrit dans la langue locale. Ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on allait rencontrer 5 ou 6 alphabets différents. Donc c'était une approche qui nous intéressait aussi. Donc on l'a fait retranscrire dans la langue et après avec une traduction. Et l'idée, c'est de faire un petit livre sur les contes de notre route de la soie.
Mais il y aurait peut-être aussi, vous avez évidemment les contes enregistrés, vous les avez ramenés, ça forcément.
Oui, on les a ramenés enregistrés et on les a ramenés déjà retranscrits. Donc on avait aussi les traductions de tous les contes, sauf du conte turc. Et là, on a eu la traduction récemment...
Donc on pourrait faire aussi une émission intéressante sur ces contes dans toutes les langues.
Oui, ça serait bien, mais je ne sais pas lire la langue. Hein.
On va s'arranger. Il y avait 3 projets, donc il y avait aussi un projet court-métrage.
Oui, l'idée c'était de voir positivement les pays dans lesquels on allait aller, et notamment d'un point de vue écologique. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a des gros désastres écologiques dans les pays en voie de développement. Nous, l'idée c'était d'essayer d'aller capter quelques gestes écologique simple et quotidien des habitants et d'en faire des petits courts-métrages et de ramener ces petits courts-métrages et d'en prendre graines en fait. Et d'essayer de montrer que bah, y a pas que des retombées écologiques négatives là-bas.
Et est-ce qu'il y a des gestes qui sont inédits pour nous, qu'on n'a jamais vus?
Nous, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est que par exemple en Iran, y a toutes les maisons, tous les bâtiments publics sont déjà aux lampes à faible consommation.
Ouais,
depuis bien longtemps. Et tous les magasins n'ont que ça. On ne trouve pas des ampoules autres. En Grèce, c'est classique, mais c'est les panneaux solaires pour chauffer l'eau. Ça, y en a de partout.
Ouais, je l'avais vu moi-même. Ils ont des chauffe-eau solaires sur toutes les maisons.
Voilà, ouais, c'est impressionnant. Au niveau Kyrgyzstan, Chine, on a vu beaucoup de fours solaires. Et notamment pour faire bouillir l'eau dans la bouilloire, c'est plein de petits miroirs en forme conique. Et donc, ils font chauffer la théière, comme ça. La nourriture également. Au Kyrgyzstan, c'est les constructions, elles sont faites avec le matériel très très local, bois, terre cuite, etc.
Donc, des choses qui nous simplifieraient la vie si on ramenait tout chez nous. Il fallait ramener un peu.
Exactement.
Pas que des idées, il fallait ramener un peu de matériaux. Et le troisième projet, c'est un projet de caravane des cadeaux.
Voilà, exactement, en quelque sorte. Donc l'idée, c'était un projet avec les écoles. Avant de partir, on est allé à la rencontre d'une dizaine de classes sur le nord du département. Et donc, on a présenté notre projet et les enfants nous ont suivis pendant pratiquement toute l'année, sachant qu'il y avait les vacances scolaires. Donc, on a essayé d'avoir un suivi le plus régulier possible. De temps en temps, on organisait des rendez-vous cybernétiques et on avait sur notre blog une page spéciale junior avec des petits reportages. Et à côté de ça, l'idée de caravane, c'était d'aller d'une école à une autre avec un cadeau du pays précédent. Donc, ouais. La France nous avait donné un cadeau pour l'école italienne, les Italiens nous ont donné un cadeau pour l'école grecque, etc. Et donc l'école de Risoul a eu un petit cadeau de l'école chinoise qui était un CD de leur fête de l'école. Voilà.
Ils sont tombés sur la tête, non, quand ils ont vu un cadeau de l'école chinoise.
Ouais,
ils s'y attendaient pas.
Non, ils s'y attendaient pas du tout, parce qu'en plus on n'avait pas dit à qui on allait donner le cadeau, quoi. Donc c'est vrai qu'ils étaient très très contents.
Ouais, vous avez fait des jaloux aussi, parce qu'il y a Risoul qui a eu, personne d'autre.
Ouais.
Bon, et ça, c'est aussi la route de la soie junior. Vous aviez intitulé ça comme ça.
Voilà, oui. On avait intitulé une rubrique spéciale la route de la soie junior. Oui.
Ouais, c'est bien, hein. T'as un beau nom. On a fait le tour des trois projets, donc on va passer un petit peu sur les lieux qui vous ont frappé. Je crois que le premier grand pays qui vous a étonné, c'est l'Iran.
Oui, évidemment, en Iran, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein, parce que bon, on entend beaucoup de choses et on a été très étonnés par finalement, quelque part, la liberté d'action qu'on a eue, parce qu'on n'a eu aucun problème pour avoir les visas, on a pu se déplacer où on voulait, on n'a jamais été réprimé ni rien, donc voilà, ça on ne s'y attendait pas. Et aussi, il y avait un contraste énorme entre, en quelque sorte, la morosité ambiante, puisque le régime dictatorial est tellement fort que ça se ressent vraiment sur les gens, sur leur manière d'être, puisqu'ils n'ont pas le droit de chanter, ils n'ont pas le droit d'exprimer plein de choses en public, enfin, tout est très très morose. Et à côté de ça, des paysages éclatants, des monuments éclatants, et puis des gens qui, dans leur intimité, sont aussi pleins de vie éclatants et qui nous disaient sans arrêt, dites-leur en France qu'on n'est pas des terroristes et dites-leur de venir nous voir, parce que c'est pour nous, c'est une bouffée de liberté de voir des étrangers. Donc vraiment, c'est un lieu qui est marquant. Marquant aussi en tant que femme, parce que bon, le port du voile est obligatoire, enfin du voile, du foulard. Obligation d'avoir une chemise longue qui cache les fesses, d'avoir des manches longues, un pantalon long. Et c'est marquant parce que bah, il faut trouver sa place aussi en tant que femme dans un régime où bah, les hommes sont quand même considérés comme supérieurs. Notamment, Téhéran... on s'est retrouvés dans un bus. Dans les bus, et ben derrière, c'est pour les femmes. Devant, c'est pour les hommes.
Ah ouais.
Moi, je l'ignorais complètement. Et donc, moi, je suis rentrée avec mes trois acolytes devant. Et là, tous les regards se sont tournés vers moi, mais des regards incendiaires. Et moi, je comprenais pas. Et là, il y a une dame, elle m'a pris par le bras et elle m'a poussée, elle m'a tirée vers elle derrière. Et après, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est très, très, c'est déroutant, quoi.
Enfin bon, vous avez pas été fusillé sur place ni emprisonné, donc déjà.
Oui, enfin, je pense que c'est exceptionnel quand même ce qui est arrivé à la jeune fille.
Elle bossait là-bas, donc c'est pas un touriste. Porter le voile avec le vélo, ça doit être gênant, non, quand même.
Oui, oui. Surtout avec 35 degrés à l'ombre. Oui, très, très gênant, mais bon, bah, on s'y fait. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Les hommes, pareil, dès qu'ils descendaient du vélo, ils n'avaient plus le droit d'être en short. C'est gênant, mais je dirais que bon, c'est un détail dans la découverte d'un voyage comme ça, quoi.
Et un autre lieu fabuleux, c'est en Chine. C'est le désert Takamakan. Et là, vous avez découvert les cartes chinoises, qui ne sont peut-être pas aussi pratiques que les nôtres.
Non, voilà, en fait, on avait, pour limiter le poids, hein. On achetait un maximum de choses au fur et à mesure, dont les cartes et la carte chinoise. Donc ce qui est rigolo et un peu déroutant des fois, c'est que sur les cartes chinoises, et ben, les noms sont écrits en chinois, et donc la prononciation, la lecture, on pouvait pas la faire. Donc on savait à peu près dans quelle direction on allait, mais on savait pas où on allait. Et il y a certaines villes, certains villages, on saura jamais par où on est passé. C'est assez rigolo, ça nous a quand même donné quelques surprises.
Les gens, vous pouvez pouvez communiquer quand même avec eux ?
Alors en Chine, c'était le plus difficile. Dans les autres pays, sans problème. On avait des petits livres de conversation et en fait, la plupart des pays ont une langue d'origine turque. Donc, vu qu'on avait passé quand même un mois et demi ou deux mois en Turquie, après on avait acquis un certain vocabulaire qui nous a permis de nous débrouiller assez bien sur l'ensemble des pays. En Chine, ça a été le plus difficile, mais des fois les mots sont pas indispensables. On a quand même fait de belles rencontres en Chine, beaucoup moins que dans les pays musulmans, parce que les pays musulmans, l'hospitalité, c'est vraiment un mode de vie et une manière d'être. En Chine, bon, il y a quand même le joug de la dictature qui est encore très très présent, et les gens, ils viennent pas vers vous spontanément. Je pense que c'est culturel aussi.
Oui, mais si vous allez vers eux, ils vous reçoivent assez bien.
Ah ouais. Oui, à bras ouverts aussi. Et c'est rigolo parce que, par exemple, en Chine, quand on rigole, c'est qu'on est mal à l'aise. Et nous, on peut le prendre comme on est en train de se moquer de moi quand je parle, alors que pour eux, c'est une manière de montrer leur malaise. Donc ça crée plein de situations assez cocasses. Non, pas de problème pour s'exprimer.
On va peut-être faire l'impasse sur pas mal de lieux comme au Kyrgyzstan, le pic Lénine, mm-hmm. Vous avez eu l'occasion d'aller. Le Turkménistan, où vous avez trouvé des costumes traditionnels et vous alliez de maison de thé en maison de thé.
Oui. En fait, le désert de Répétek, c'est le désert qu'on a traversé au Turkménistan, et on a eu les plus grosses chaleurs au Turkménistan, à savoir que ça montait facilement à 40. Donc le temps de pédalage était limité. On partait vraiment au lever du jour pour s'arrêter vers 10h, 10h30, et on reprenait vers 4-5h. Et on n'avait que 7 jours de visa pour faire environ 450 km. Il fallait d'aller.
Mais heureusement, vous êtes des briançonnais purs et durs. Ça n'aurait pas été possible autrement. C'est sur ce début de périple qu'on va faire une petite pause. Dans ces fortes chaleurs, je pense que ça va nous aider. En deuxième partie, on parlera des rencontres. Bonjour à tous les auditeurs, donc nous sommes toujours dans Carnet de Voyage et toujours avec Stéphanie Besson, qui maintenant est reposée.
Oui.
On va voir une rencontre qui pour nous va nous paraître étrange, c'est le 3e anniversaire de la mort d'une grand-mère.
Voilà, nous aussi ça nous a paru étrange d'ailleurs. Donc on est tombé par hasard dans un petit village sur l'anniversaire des 3 ans de la mort d'une grand-mère à laquelle on a été invité. Il faut savoir qu'en Chine c'est très important ce 3e anniversaire, c'est le moment où l'âme de la personne décédée va pouvoir aller rejoindre les ancêtres, et au plus la fête sera belle et réussie, au plus elle ira les rejoindre sereinement. Ouais, donc on a eu l'occasion de se retrouver dans cette cérémonie, on a vu toute la préparation. Donc il faut savoir qu'ils construisent plein de décorations en papier crépon et en bambou, c'est un vrai décor de cinéma pratiquement, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fioritures.
Ça fait un peu comme un hôtel.
Oui, ça fait comme un hôtel. Et sous cet hôtel-là, le soir, quand la nuit tombe, Des pleureuses arrivent et toute la famille est revêtue de blanc avec un chapeau un petit peu en pointe. Ça fait très très ambiance secte.
Ouais, ouais, voilà. Ouais.
Avec des chants, des incantations pour que l'âme de la grand-mère vienne et parte avec les ancêtres sereinement. Donc après, il y a des offrandes, donc un poulet, du pain, des liquides. Voilà. Et ça dure des heures et des heures. La famille est sur les genoux, elle se prosterne et il y a un maître de cérémonie. Parce qu'il ne faut pas faire ça correctement, sinon l'âme de la grand-mère n'arrivera pas à rejoindre ses ancêtres.
Ouais, il faut que ce soit sérieux.
Voilà, donc on a eu la chance de voir cette cérémonie, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, on leur a demandé en fait, de quelle religion ils étaient athées. Et nous, ça nous a particulièrement marqué parce que en fait, ce n'était pas du tout des taoïstes, ce n'était pas des bouddhistes, etc. Mmh. Mais c'était vraiment une tradition.
Et ils font des incantations pour l'âme de la grand-mère. Ils font également un brasier.
Oui, le lendemain, donc après cette cérémonie-là, ils vont tout brûler. Ils vont brûler les offrandes, l'autel, tous les objets de décoration qui ont été faits pour cette cérémonie-là, ils le brûlent.
Donc c'est une catastrophe parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ça, ils font des crédits pour ça.
Voilà, oui, souvent
Et après, ils brûlent tout.
Voilà, oui. Mais il y a cette partie décoration et puis cérémonie. Il y a aussi le fait qu'ils invitent à un repas la famille lointaine, les gens du village, etc. Et c'est parfois des familles très, très modestes. Et donc pour eux, c'est un coût énorme. Et parfois, ils s'endettent pour ce troisième anniversaire de la mort d'un de leurs proches.
On va changer de pays. On va passer chez les nomades kurdes. Et là, vous avez fait un échange de nomades, entre nomades.
Voilà, un échange entre nomades. C'est vrai qu'on a trouvé cette rencontre particulièrement émouvante aussi, donc en Turquie, mais sur la partie kurde. Et donc, on a rencontré un groupe de nomades. Donc, leurs tentes sont pointues, ils ont leurs troupeaux et ils bougent plusieurs fois dans l'année pour chercher l'herbe de leurs troupeaux. Et donc, on a été invités à rester avec eux une nuit, de partager leur repas, etc. Et donc, ce qui était génial, c'était vraiment une rencontre d'échange de pratiques de nomades. Parce que nous, on était intéressés par leur mode de vie nomade, mais eux, ils étaient aussi intéressés par le nôtre, à savoir comment on gérait l'eau, comment on gérait notre tente, où on dormait, le matelas, le confort, la nourriture, les vaches à eau, etc. Et du coup, c'était vraiment un échange de pratiques. Donc, ça nous a beaucoup marqué aussi.
Et ils voulaient échanger un VTT Décathlon contre leur vache ou leur...
Non, pas à ce point-là, non. Je crois que finalement,
essayé le VTT quand même, non ?
Les enfants, oui, mais pas les adultes. Par contre, il y a beaucoup d'adultes au fil du voyage qui ont voulu essayer le vélo, qui nous ont aidés à gonfler les matelas, qui ont voulu se mettre dans la tente pour voir ce que ça faisait, des adultes. Mais là, pour les nomades kurdes, non, c'était surtout les enfants qui essayaient le vélo. Et je pense qu'à la fin, bon, on était satisfaits et les uns et les autres pour notre nomadisme à nous, de notre matériel.
Ouais. On va à nouveau changer de pays et passer au Kyrgyzstan, où là, vous avez aidé les gens à monter des yourtes.
Voilà, donc là, c'était un moment de travail commun, on va dire. Donc, on arrivait au le Kyrgyzstan, donc c'est une ancienne république soviétique. Et ce sont des nomades qui, en fait, montent en alpage pour l'été avec leurs troupeaux et qui montent des yourtes pour vivre pendant cette période d'alpage. Donc là, on est tombé sur un groupe qui allait monter sa yourte. Et donc, on regardait un petit peu et ils nous ont dit, enfin, on a compris, au lieu de regarder, venez donc travailler, parce qu'en plus vous êtes grand, plus grand que nous, ça va nous aider pour monter notamment la cheminée et autres choses qui sont hors de proximité pour eux, où il faut qu'ils montent sur des tabourets. Voilà. Donc ça a été un moment de travail en commun qui s'est soldé par un moment bien convivial où on a bu tous ensemble de la vodka, bien sûr. Et...
Donc c'est ça, les étrangers, ils viennent piquer le travail des autochtones, ils viennent montrer qu'ils sont plus grands qu'eux et après ils se saoulent devant eux. Et la dernière rencontre, c'est carrément en mer Noire, une famille très pauvre avec des enfants qui ont été heureux de vous rencontrer.
On a rencontré donc le monsieur de cette famille. C'était un mineur qui revenait d'une semaine ou deux de travail loin de chez lui. Et donc, il nous a fait comprendre pendant une demi-heure qu'il serait vraiment heureux de nous recevoir dans sa maison, notamment parce qu'il n'avait pas de moyens et que pour lui... pour il voyait pour ses enfants une opportunité immense de pouvoir rencontrer des étrangers et de parler de notre vie là-bas, etc. Et du coup, après un petit moment, on a accepté l'invitation et on s'est retrouvés, c'est vrai, dans une famille très très mauvaise d'Est. Il y avait pas de quoi manger même pour eux, mais ils nous ont invités à manger, ils nous offraient tout ce qu'ils avaient. Donc c'était vraiment, on a été invités sans arrêt pendant tout le voyage, mais là c'était vraiment une des familles les plus modestes. Et pourtant le monsieur, il débordait de vie et de joie qu'on ait dit oui et de pouvoir montrer à ses enfants à qui il pourra jamais payer un livre ou à qui il pourra jamais même pas payer un voyage ou peut-être même pas l'école, d'avoir des étrangers chez lui et qu'on puisse lui parler de la France, etc. Et c'est vrai que c'était un moment très 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 émouvant et on garde vraiment comme un moment privilégié. On est un petit peu en contact avec lui encore aujourd'hui par email. C'était vraiment une des plus belles rencontres. On sentait vraiment cette joie, quoi.
Vous arriviez à parler en anglais ou...
On parlait en turc avec le livre, avec beaucoup de dessins, avec les mains, mais on arrive bien à se débrouiller en fait. On a l'impression que c'est difficile, mais finalement même en Iran on a réussi à parler beaucoup de politique. On arrivait à exprimer à peu près toutes les idées qu'on voulait, entre le dessin, les petits guides, etc. C'est vrai que on y arrive.
En Iran, il parle
le perse, et après, quand on est dans les villes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui parlent très, très bien anglais et français, alors que souvent, ils ne sont jamais allés à l'étranger, mais c'est impressionnant le niveau qu'ils ont.
Alors justement, ça nous a fait une transition magnifique pour quelque chose qui était un peu étrange et imprévu. En Iran, les policiers vous ont mis en lumière.
Si voilà. Donc nous, on avait pour... habitude de trouver un petit bivouac tranquille, en essayant de trouver des lieux agréables, etc., et un petit peu caché. Comme à notre habitude, on installe notre campement, et là, deux policiers arrivent et nous disent il faut que vous nous suiviez, ici c'est dangereux, on va vous mettre dans un endroit où il n'y aura aucun risque. Et l'endroit où il n'y avait aucun risque était en pleine ville, sous les lampadaires. Voilà, donc on a dû passer une nuit là, au milieu de tout le monde, quoi. Un petit peu particulier, mais c'est vraiment un aspect très fort en Turquie et en Iran également, cette volonté de protéger l'étranger qui est en fait dans leur tradition un envoyé de Dieu et donc à qui on doit vraiment tout donner et donner une hospitalité sans borne, quoi.
Ouais.
Ça, on l'avait vraiment ressenti.
D'un autre côté aussi, le fait de dire dans l'ombre, il peut y avoir que des bandits ou des problèmes, c'est un peu bizarre pour nous, quoi.
Oui. Nous, on se dit, on se met un petit peu caché pour être protégé et eux, c'est la vision inverse.
Ce voyage est énorme, donc il a fallu trouver des gens qui vous ont aidé.
Oui, donc c'est vrai, quand on a préparé le voyage, on a cherché un petit peu des aides financières et matériel, et c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé par les commerçants locaux, surtout sur Briançon, donc Connexion, le GAN nous a assuré gratuitement pendant un an. On a été aidé aussi financièrement par la région PACA, qui nous a suivis sur le projet Route de la Soie Junior. On a été aidé par la ville de l'Argentière, l'ABC, et la ville de Briançon pour le financement de l'exposition. Et donc on a une association qui s'appelle l'association Marlopoco, et donc quand on nous indemnise pour notre déplacement pour le diaporama ou l'exposition, en fait, on reverse cet argent à des associations qui nous paraissent en avoir besoin. En fait, notre but, c'est vraiment pas de tirer profit de notre expérience, c'est plutôt d'essayer de la partager et de raconter ce qu'on a vu, ce qui nous a marqué, mais pas d'en vivre.
Et notre émission touche à sa fin, c'était très riche. On n'a pas parlé de vos amis qui sont partis vers le Tibet, toujours en vélo.
Mm-hmm.
On n'a pas parlé de la Chine centrale, où vous êtes resté proche de la ville des terres cuites. Comment ça s'appelle ?
Xi'an, c'est la capitale du premier empire chinois, et c'est là où se trouvent les soldats de terres cuites, l'armée de 6000 soldats. Notre point d'arrivée. En Chine.
Alors c'est sur ce point d'arrivée que nous allons terminer. Merci Stéphanie Besson de nous avoir confié le guidon de votre vélo.
Merci à vous.
À bientôt.
Carnet de voyage. une invitation.
Ooh, can't anybody see?